Bonjour à tous. C'est une joie de nous retrouver tous les dimanches matin pour autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui est jour de Pentecôte, comme vous le savez, le jour où nous recevons le Saint-Esprit. Il est en action, il a commencé d'agir déjà. Il a déjà agi ce matin parce que Matthieu et moi, sans le savoir, nous étions déjà connectés spirituellement. Donc nous allons prendre le texte qui a été lu lors de la première partie, au moment de la louange, dans l'évangile de Jean, chapitre 16, du verset 5 au verset 16. Jean 16, nous lirons à partir du verset 5 jusqu'au verset 16. « Maintenant, je vais auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où je vais. Mais à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse vous a envahi. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice ne viendra pas à vous. » Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement. Au sujet du péché, parce que le monde ne croit pas en moi. Au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Et au sujet du jugement, parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. Voilà pourquoi je vous dis qu'il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps et vous me reverrez. Amen. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice ne viendra pas à vous. Cette parole que Jésus adresse à ses disciples ici, attristée par l'annonce de son départ, peut nous sembler déconcertante. Alors même qu'ils sont troublés à l'idée que Jésus puisse les quitter, et qu'ils soient livrés à la haine du monde. Alors qu'ils sont perturbés par cette annonce, Jésus, plutôt que de rassurer ses disciples immédiatement et tout de suite, leur dit cette parole étrange. « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. » On se serait attendu à ce que Jésus, face au chagrin de ses disciples, leur dise « Je comprends votre inquiétude. » Je vais trouver une solution. Je vais même peut-être devoir renvoyer mon départ à plus tard, etc. Ou des choses de ce genre. Non seulement il ne le dit pas ici, mais en plus il leur dit, comme pour enfoncer le clou, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Mais qu'est-ce qui vaut mieux que la présence physique de Jésus, à laquelle les disciples étaient habitués? Qu'est-ce qu'il y a de plus rassurant que la présence effective de Jésus au milieu des siens, au point où il en vient à dire qu'il vaut mieux que lui s'en aille pour que celui qu'il appelle ici le défenseur en justice, c'est-à-dire le Saint-Esprit, vienne? Doit-on comprendre par cela que la présence du Saint-Esprit auprès des disciples a une valeur plus importante que celle de Jésus? qu'est-ce que le Saint-Esprit apportera de plus fort et de plus consistant que Jésus aux disciples? Et en quoi la présence de Jésus, jusque-là rassurante et bénéfique, peut-elle subitement devenir préjudiciable aux disciples? C'est de cela qu'il s'agit. Car s'il faut que Christ s'en aille pour que le Saint-Esprit s'installe, on peut être tenté de penser que le Saint-Esprit vient tout simplement et totalement remplacer Jésus-Christ et peut-être même faire mieux que lui. Il se pose alors ici la question du rôle du Saint-Esprit dans la vie des croyants et de tous les hommes. En effet, quelle est véritablement l'œuvre du Saint-Esprit? Quelle œuvre le Saint-Esprit vient accomplir dans notre vie chrétienne aujourd'hui, par rapport à Dieu, par rapport à Jésus-Christ et concernant notre foi? Telle est la question fondamentale que pose ce passage de Jean, chapitre 16, versets 5 à 16. Il est donc question ici d'amener le peuple de Dieu que nous sommes à comprendre l'importance et la nécessité de recevoir le Saint-Esprit dans nos vies si nous voulons approfondir notre connaissance de Christ et grandir dans la foi. Mais avant cela, nous devons d'abord intégrer dans notre esprit cette réalité qui semble s'imposer dans ce texte de Jean. Le Saint-Esprit ne remplace pas Jésus, mais manifeste sa gloire pour que le monde croie. Le Saint-Esprit ne vient pas, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, pour prendre la place de Jésus dans nos vies, comme s'il en était le concurrent. Mais il vient, comme dit Jésus lui-même ici au verset 13, pour nous conduire dans la vérité tout entière. Une vérité qui nous permettra de comprendre et connaître enfin tout ce qui a été dit au sujet de Jésus-Christ, de son œuvre, de sa mort, de sa résurrection et de sa divinité. Et une vérité qui finira de convaincre le monde qu'il est dans l'erreur et qu'il a tort en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et c'est en cela que le Saint-Esprit manifestera la gloire de Jésus-Christ et de son Père dans le monde pour qu'il sorte enfin de son incrédulité. Le Saint-Esprit ne vient pas remplacer Jésus dans nos vies. Il vient témoigner de lui pour manifester sa gloire afin que le monde croie. Il vient rendre plus visible et plus éclatante cette gloire de Jésus-Christ que le monde a toujours méprisée, rejeter ou renier afin de nous amener tous à la foi. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ et de Dieu dans le monde. Alors, pour mieux comprendre cette vérité, il m'a semblé nécessaire d'aborder avec vous trois points qui, j'espère, nous permettront de grandir en ce jour de la Pentecôte en matière de connaissance du Saint-Esprit et de son action dans nos vies. Le premier point consistera à dire que même s'il ne le remplace pas, le Saint-Esprit n'entre véritablement en action que lorsque Jésus s'en va. La présence du Saint-Esprit ne devient effective que par l'absence de Jésus-Christ. Il faudra alors qu'on essaie de comprendre cette absence de Jésus. Le deuxième point nous amènera à nous demander comment le Saint-Esprit peut manifester la gloire de Jésus dans un monde de plus en plus incrédule. Car s'il est vrai que le Saint-Esprit ne remplace pas Jésus, mais qu'il manifeste sa gloire, comment procède-t-il pour que cette gloire de Jésus se révèle aux yeux des hommes? Quelle est véritablement l'œuvre du Saint-Esprit dans le monde? Et enfin, nous chercherons à comprendre en quoi, par cette action du Saint-Esprit, les hommes peuvent être amenés, non seulement à le recevoir dans leur vie, mais aussi à croire en Jésus-Christ et en Dieu. Il s'agira de voir en quoi la présence du Saint-Esprit dans nos vies peut véritablement nous transformer et devenir, pour nous, un marqueur de différence par rapport au monde. Alors, le premier point nous fait dire que le Saint-Esprit n'entre véritablement en action qu'avec le départ de Jésus-Christ. Mais il ne le remplace pas pour autant. Il est l'Esprit de Christ et de Dieu dans le monde. Mais si le Saint-Esprit ne remplace pas Jésus, comment peut-on expliquer alors cette absence que Jésus brandit pourtant à ses disciples? Quand il leur dit, au verset 7, « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. » On serait tenté de penser que celui qui arrivera après Jésus vient tout simplement le remplacer. D'ailleurs, c'est ce que semble nous confirmer la suite du verset. Il nous dit, « En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice ne viendra pas à vous. » Jésus nous dit ici que le défenseur en justice, c'est-à-dire le Saint-Esprit, ne peut venir auprès des disciples que si lui, Christ, s'en va. Comment le comprendre? La première chose à dire ici, c'est que le départ dont parle Jésus ici est un départ voulu, avec un but bien précis. Ce but, c'est que le défenseur en justice, le Saint-Esprit, vienne prolonger, continuer l'œuvre que Jésus a déjà entamée. Et ce n'est donc pas une absence qui crée le vide, mais qui s'ouvre plutôt sur une continuité. La deuxième chose, c'est que cette absence de Jésus est une absence qui s'annonce momentanée et non définitive. C'est ce qu'il dit au verset 16. « Dans un peu de temps, vous ne me verrez plus. Puis encore un peu de temps, et vous me reverrez. » C'est donc une absence qui, parce que éphémère, doit être source d'espérance et non de tristesse. Les disciples sont tristes ici. Mais Jésus rassure, je reviendrai. Et la troisième chose que nous pouvons comprendre à travers cette absence annoncée de Jésus, c'est qu'elle est accompagnée de deux promesses importantes. La première promesse est la promesse du Saint-Esprit. Au verset 7, Jésus dit, « Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai, c'est-à-dire le Saint-Esprit. » Jésus ne laisse pas ses disciples seuls. Il les rassure, et nous aussi en même temps, en promettant le don du Saint-Esprit. C'est aussi ce qu'il dit un peu plus haut, au chapitre 14, au verset 16. Quand on remonte un peu, il nous dit, « Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous. » C'est l'Esprit de vérité. Et il rajoute au verset 18 du même chapitre, « Non, je ne vous laisserai pas orphelin. » Jésus part, mais ce départ ne doit pas conduire à la tristesse, mais à l'espérance, car il promet le Saint-Esprit, appelé aussi Esprit de vérité. La deuxième promesse que Jésus fait ici, c'est la promesse de son retour. Jésus dit, « Je pars, mais je reviendrai auprès de vous. » Si nous remontons toujours au chapitre 14, ce sont des chapitres liés 14, 15, 16. Il nous dit au verset 3, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. » Le verset 16 de notre passage nous dit dans sa deuxième partie, « Puis encore un peu de temps et vous me reverrez. » Il y a donc de quoi se rassurer. Jésus s'en va, il ne s'en va pas définitivement pour laisser la place à un vide. Non, il ne disparaît pas de la vie des disciples, ni même de notre vie, pour laisser le Saint-Esprit seul acteur de nos vies. S'il s'en va, c'est pour mieux revenir et nous prendre avec lui. Et s'il part, c'est pour nous envoyer cet esprit de vérité qui est une partie de lui-même et qui, loin de le remplacer, vient rendre plus visible, plus audible son œuvre auprès de nous, auprès des hommes. Mais comment le Saint-Esprit peut-il rendre l'œuvre de Jésus-Christ plus accessible et plus visible aux hommes? Comment manifeste-t-il sa gloire? Ceci nous conduit à un deuxième temps de notre message. Le Saint-Esprit manifeste la gloire de Jésus dans le monde de deux manières. D'abord, en tant que défenseur en justice, c'est ce qu'il nous dit ici, et en tant qu'esprit de vérité. En tant que défenseur en justice, le Saint-Esprit prendra le relais pour défendre la cause de Jésus dans le procès qu'il oppose au monde incrédule. Et comme un bon défenseur en justice, comme un bon avocat, le Saint-Esprit apportera donc la preuve que le monde s'est trompé au sujet du péché, de la justice et du jugement. Le verset 8 nous dit « Et quand il sera venu, donc le défenseur en justice, il produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement. » Et quelle preuve apportera-t-il à propos du péché? Au sujet du péché, l'Esprit apportera la preuve que le monde a commis le péché d'incrédulité en rejetant Jésus, en refusant de croire en sa parole. Chapitre 15, versets 22 à 24, donc du jour de l'évangile de Jean, il est question du rejet de Jésus et de la haine à son égard, alors qu'il a donné la preuve de son autorité. Cela manifestera le péché du monde, qui trouvera son paroxysme, ce péché, dans la crucifixion de Jésus. Aujourd'hui encore, le péché consiste à rejeter Jésus et à le tenir à l'écart. L'Esprit montrera cette erreur par la prédication de l'Évangile et son action. Beaucoup de gens aujourd'hui sont encore plongés dans l'incrédulité. Ils ne croient pas en Jésus-Christ, ni à son œuvre sur la croix. Nous devons prier pour que Dieu les saisisse par son Esprit, afin que cet Esprit les convainque, réussisse à les convaincre de leur péché, de leur erreur, et qu'ils croient enfin à Jésus-Christ. Et pour défendre Jésus, aujourd'hui, le Saint-Esprit équipe les croyants et les disciples que nous sommes en mettant à notre disposition un certain nombre de dons spirituels par lesquels nous devenons de véritables témoins en faveur de Jésus-Christ. La parole, l'enseignement, la prophétie, etc. Autant de dons que le Saint-Esprit nous donne pour justement faire de nous des témoins de Jésus-Christ partout où nous sommes. Au sujet de la justice, le verset 10 nous dit « Au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. » Comprenons ici que le défenseur en justice apportera la preuve que le Fils a été justifié par l'Esprit. Cet Esprit par lequel il est sorti du tombeau et monté auprès du Père. 1 Timothée chapitre 3, verset 16 nous dit « Voici ce que nous reconnaissons ensemble. Il est grand le secret du plan de Dieu. Christ qui fait l'objet de notre foi. Il s'est révélé comme un être humain et déclaré juste par le Saint-Esprit. Il a été proclamé parmi les non-juifs. On a cru en lui dans le monde entier. Il a été élevé dans la gloire. » L'Esprit convaincra d'erreur le monde en ce qui concerne la justice, car Jésus ressuscitera et sera assis à la droite du Père, recevant ainsi la justification, c'est-à-dire reconnu innocent et juste, lui qui a été condamné comme coupable. Alors que les hommes se croyaient justes en le condamnant, Dieu les convaincra par son Esprit que Jésus est le juste, qui par sa justice justifie les pécheurs. C'est ce que nous croyons aujourd'hui, n'est-ce pas, par l'Esprit Saint. Au sujet du jugement, le verset 11 dit « Et au sujet du jugement, parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. Et le Saint-Esprit finira par convaincre le monde que par la mort de Jésus sur la croix, c'est justement Satan, le malin, qui est vaincu et définitivement cloué à la croix. Jésus est à jamais vainqueur. Voilà ce que le Saint-Esprit nous permet de comprendre aujourd'hui. Et ceci est important à savoir, car par cette vérité, nous comprenons que nous aussi, nous qui sommes unis à Christ, nous serons plus que vainqueurs en toute épreuve. Le rôle du Saint-Esprit sera donc de convaincre le monde de toutes ces vérités qui jusque-là étaient soit méconnues, soit contestées, et ainsi il manifestera la gloire de Christ. Voilà la première manière par laquelle le Saint-Esprit manifeste la gloire de Jésus-Christ dans le monde, en apportant la preuve de l'égarement du monde, pour que celui-ci change enfin, pour que celui-ci se tourne enfin vers Christ, pour que celui-ci croit. La deuxième manière par laquelle le Saint-Esprit manifeste la gloire de Jésus dans le monde, c'est en tant qu'esprit de vérité. La parole nous dit au verset 13, « Quand l'esprit de vérité sera venu, il nous conduira dans la vérité tout entière. » Et cette vérité, c'est tout ce qui concerne Jésus-Christ, sa vie, son œuvre, sa mort, sa résurrection. C'est par le Saint-Esprit que désormais il est possible de connaître toutes les vérités que Christ avait encore à dire à ses disciples et qu'il n'a pas pu dire parce qu'en l'absence du Saint-Esprit, les disciples ne pouvaient pas encore les supporter ni même les digérer. Il dit au verset 12 à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. » C'est dire que la présence du Saint-Esprit est ce qui nous conduit à la maturité spirituelle. C'est seulement une fois équipés du Saint-Esprit que nous serons aptes à supporter ces choses lourdes que Jésus avait encore à dire. Le Saint-Esprit est donc ce qui vient rendre supportable par notre entendement humain des choses qui, sans lui, nous auraient été incompréhensibles. La croix, la résurrection, la mort, la souffrance de Christ, toutes ces choses, nous les comprenons et nous les acceptons aujourd'hui par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous permet aujourd'hui de comprendre la folie de la croix, de comprendre que derrière ce qui a été vu comme une folie par certains se cache la puissance, la sagesse et l'amour de Dieu pour l'humanité. Une vérité qui, pour ceux qui n'ont pas l'Esprit Saint, demeure une folie aujourd'hui. Quand tu expliques à une personne non-croyante aujourd'hui que Christ a accepté d'être crucifié par amour pour nous, il ne comprend pas. C'est trop lourd pour lui. Et c'est normal, parce qu'il n'a pas encore cet Esprit Saint qui vient lui révéler cette vérité. Il est encore un enfant spirituel qui n'a besoin que de lait. C'est par le Saint-Esprit que nous avons la sagesse de la révélation pour connaître Dieu et pour comprendre en quoi consiste notre espérance. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 4, versets 17 à 18, je cite, « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. » C'est le Saint-Esprit qui nous permet maintenant de connaître mieux notre Seigneur Jésus-Christ et que nous comprenions en quoi consiste notre espérance. Sans le Saint-Esprit, il sera difficile de comprendre cela. Et l'Esprit de vérité nous conduira dans toute la vérité, en ce qu'il sera le témoin privilégié de Jésus-Christ. Il ne parlera pas de lui-même, nous dit le verset 14. C'est dire qu'il n'inventera pas des choses, qu'il ne nous racontera pas d'histoire, il ne nous dira pas les choses qui viennent de lui-même. Mais comme nous le dit la parole ici au verset 14, tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Et il vous annoncera les choses à venir. Tout ce qu'il annoncera, il aura d'abord entendu de celui dont il est le témoin, c'est-à-dire de Christ lui-même. Or, qui est Christ? Christ, c'est la vérité. Il s'est défini comme étant la vérité, et c'est ça. Christ est la vérité même. Quand il nous dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » C'est lui le dépositaire de la vérité. Voilà pourquoi nous avons l'assurance que tout ce que le Saint-Esprit nous dira de la part de Christ est vérité, car sa source d'information, c'est la vérité même, c'est Christ. Et c'est donc cette vérité de Jésus-Christ que le Saint-Esprit vient nous révéler et ainsi manifester sa gloire. Le verset 14 nous dit « Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Le Saint-Esprit nous annoncera aussi des choses à venir. Ça veut dire qu'il donnera aux hommes l'esprit de prophétie afin qu'ils puissent parler au nom de Dieu. L'apôtre Pierre nous dit dans sa deuxième épître, chapitre 1, verset 21, « En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Si le Saint-Esprit ne m'anime pas, je ne parlerai pas devant vous. Si le Saint-Esprit n'avait pas inspiré les hommes pour écrire la Bible qui est la parole de Dieu, cela n'aurait pas été possible. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de la part de Dieu. Celui qui n'est pas poussé par le Saint-Esprit parlera, mais ne sera pas entendu. Celui qui n'est pas poussé par le Saint-Esprit parlera, mais dira des choses qui sont éloignées de Dieu. Beaucoup de gens, encore aujourd'hui, pensent parler sous l'inspiration du Saint-Esprit, alors qu'ils sont simplement sous l'influence de l'esprit malin. C'est pourquoi il y a beaucoup de fausses doctrines et de faux prophètes aujourd'hui dans le monde. Il suffit d'aller sur Internet pour se rendre compte à quel point des faux prophètes dispensent des doctrines éloignées de la parole de Dieu. Soyons vigilants et demandons à Dieu de nous éclairer par son esprit. Alors si le Saint-Esprit dit la vérité, c'est parce qu'il tient sa source de Christ. Or, Christ lui-même puise sa source du Père. Ceci aboutit à un processus qui va réunir les trois personnes de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le verset 15 nous dit « Tout ce que le Père, Dieu, possède m'appartient à moi, Jésus, aussi. Voilà pourquoi je vous dis qu'il, le Saint-Esprit, puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Les trois personnes de Dieu sont donc ici réunies pour participer à la manifestation de la vérité et de la gloire de Dieu. Alors, peut-on passer à côté d'une telle richesse? Peut-on ignorer une telle source d'information? Au vu de toutes ces vérités qu'il peut nous apporter, au vu de toutes ces informations importantes qu'il peut nous donner dans notre vie de foi, il est évident que le Saint-Esprit a un rôle central dans le développement de notre vie chrétienne. Il devient ainsi un partenaire privilégié pour nous accompagner dans notre parcours spirituel. C'est par le Saint-Esprit que Jésus nous parle. On comprend alors maintenant, oui, on comprend beaucoup mieux pourquoi il dit au début de ce passage qu'il vaut mieux pour nous, pour les disciples, que lui s'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Car en tant que défenseur en justice, c'est lui qui nous apporte la preuve de notre péché. Une preuve importante et nécessaire pour déclencher en chacun de nous le processus de repentance. Tu ne peux pas entrer dans ce processus de repentance si le Saint-Esprit ne te convainc pas de ton péché. C'est lui qui te convainc que tu es dans l'erreur. Sans lui, tu vas continuer à marcher, à voguer, sans savoir si tu es dans le vrai ou pas. En tant qu'esprit de vérité, il nous conduit dans toute la vérité en nous ouvrant les yeux sur les mystères de Christ, sur sa vie, sur son œuvre. C'est encore le Saint-Esprit qui nous équipe par ses dons spirituels et la puissance de Dieu qui fait de nous les témoins de Jésus dans le monde. Quand, au moment où il devait repartir dans le ciel, Jésus dit à ses disciples quelques jours avant à Jérusalem, « Ne partez pas de Jérusalem. Ne quittez pas cette ville. » Avant quoi? Avant d'avoir reçu la puissance même de Dieu qui viendra du ciel. Ne partez pas. Parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas encore équipés. Ils n'avaient pas encore cette puissance qui leur permettra de prendre l'envol. Et une fois que le Saint-Esprit arrive, vous pouvez sortir de Jérusalem. Aller en Samarie. Aller en Judée. Aller jusqu'à l'extrémité de la terre pour annoncer la parole. C'est le Saint-Esprit qui nous équipe de la puissance même de Dieu. Alors la question est simple. Et elle nous conduit à cette dernière partie de notre message. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Telle est la question que l'apôtre Paul pose à ses 12 disciples qu'il rencontre à Éphèse. Cette question se pose à nous aussi aujourd'hui. Avons-nous véritablement reçu le Saint-Esprit? Et c'est quoi recevoir le Saint-Esprit? Recevoir le Saint-Esprit suppose tout d'abord de l'écouter véritablement. Paul avait l'habitude d'écouter le Saint-Esprit, même s'il ne lui annonçait pas toujours que de bonnes nouvelles. Actes chapitre 20, verset 23, nous dit « Tout ce que je sais, et c'est l'apôtre Paul qui parle, c'est que le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville que je dois m'attendre à être emprisonné et à connaître bien des souffrances. » Nous écoutons tellement de choses aujourd'hui. Nous entendons tellement de voix aujourd'hui, et pas toujours les bonnes. Nous obéissons à tellement d'injonctions aujourd'hui, pas forcément à celles qui nous poussent au bien. Apprenons à écouter le Saint-Esprit. C'est la voix de Christ en nous. Recevoir le Saint-Esprit, c'est aussi recevoir la marque de fabrique de Dieu. C'est recevoir ce sceau que Dieu a mis sur nous en signe que nous lui appartenons. C'est recevoir la griffe qui fait de nous les propriétés de Dieu. Et cela suppose aussi de refuser de l'attrister, le Saint-Esprit. Paul, dans le livret des Éphésiens, chapitre 4, verset 30, dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. » Combien de fois avons-nous attristé le Saint-Esprit? Nous pouvons l'attrister par notre mauvaise conduite, par nos fautes, par nos péchés. Recevoir le Saint-Esprit, c'est enfin accepter de marcher non plus par la chair, mais désormais par l'Esprit. Et marcher par l'Esprit signifie se conduire de telle manière que nos actes produisent ou reflètent l'Esprit de Dieu et le caractère de Jésus-Christ. Encore Paul, dans son épître aux Galates, chapitre 5, nous avons lu tout à l'heure, versets 22 à 23, il définit le fruit de l'Esprit en ces termes. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Qu'est-ce que nous pouvons parfois être éloignés de ces fruits? Où sont nos fruits de l'Esprit? Si nous avons le Saint-Esprit, où sont nos fruits de l'Esprit? Ils doivent se voir. Où est notre amour? Où est notre joie? Où est notre paix? Avons-nous de la patience? Où est notre douceur? Le Saint-Esprit vient donc aussi nous aider à mieux revêtir le caractère de Christ qui se trouve dans ces fruits de l'Esprit et ainsi nous permettre de manifester sa gloire. Nous ne pouvons manifester la gloire de Christ que par les fruits que seul le Saint-Esprit nous rend capable de produire. Alors, en ce jour de la Pentecôte, je prie Dieu qu'il nous inonde de son Esprit Saint et qu'il nous aide à mieux le recevoir, afin que son action nous fasse porter de beaux fruits qui honorent et glorifient notre Seigneur Jésus-Christ. Recevons le Saint-Esprit aujourd'hui, si ce n'est pas encore le cas, pour manifester la gloire de Jésus-Christ dans le monde. N'est-ce pas là notre mission? N'est-ce pas là notre ambition dans cette Église? Que de rayonner dans la ville et dans le monde? Pour que nous soyons une Église qui rayonne dans la ville et dans le monde, nous devons recevoir le Saint-Esprit au plus profond de nous-mêmes et il nous rendra capables de devenir de vrais témoins de Christ, non seulement ici, mais partout dans le monde. Amen.